France Culture.
Bonjour, Jean-Luc Gaudreau avec vous sur France Culture. Comme chaque année, en prolongement de soleil, le rendez-vous protestant, nous nous retrouvons à 16h pendant 6 semaines, chaque dimanche du carême et donc jusqu'à dimanche prochain inclus. C'est Solae, le carême protestant 2025, proposé par la Fédération protestante de France en partenariat avec l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris. C'est la pasteur Marie-Pierre Courneau de l'Église protestante unie à Paris, dans la paroisse de Montparnasse-Plaisance, qui nous conduit pendant ce temps de carême avec une véritable héroïne de la Bible, Ruth. Nous abordons aujourd'hui le dernier chapitre du livre. Il nous restera encore une émission la semaine prochaine pour conclure. Et pour ceux qui prendraient le train en marche, comme on dit, eh bien vous pouvez retrouver les 4 précédentes émissions sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application Radio France. Bonjour Marie-Pierre Courneau.
Bonjour.
Eh bien, nous entrons dans le final du texte aujourd'hui, ce chapitre 4 du livre de Ruth qui vient d'ailleurs après quoi ?
Après la folle nuit sur l'aire de Vadage, où Ruth et Boaz ont conclu une intime alliance par laquelle Boaz a promis d'assurer l'avenir de Ruth. Et une nouvelle journée s'annonce décisive. Boaz a en réalité promis de racheter Ruth, sans que l'on sache très bien de quoi il s'agit. Mais il signale qu'un autre racheteur existe, qui a priorité sur lui. Cette notion de rachat existe dans la Bible sous forme d'une loi, mais qui concerne des contextes complètement différents. Quand une personne totalement démunie est contrainte de se vendre comme esclave ou contrainte de vendre sa terre, il est alors du devoir du plus proche parent de racheter la personne ou la terre s'il en a les moyens. Dans notre histoire, puisqu'il n'y a ni terre ni esclave à racheter, il est vraisemblable que cette loi du rachat est sortie de son champ d'application pour être transformée et étendue à la situation de Ruth, qui a besoin, comme toutes les femmes à l'époque, d'un mari et d'un enfant. Au début de notre histoire, Élimélec et ses deux fils, Mahlon et Kilion, après avoir émigré dans les plaines de Moab, meurt. Naomi, la veuve d'Élimélec, se retrouve seule avec ses deux belles-filles, Moabites, elles aussi veuves. L'une des deux retourne dans sa famille, l'autre, Ruth, reste avec Naomi. Les deux femmes, Naomi et Ruth, rentrent alors à Bethléem, d'où était originaire Élimélec, et elles n'ont plus en tête que leur mission à accomplir, celle que leur assigne la société de l'époque, garantir la transmission du nom et de l'héritage du défunt et de ses ancêtres à travers un fils. C'est ainsi que l'on pense, à l'époque, la vie après la mort, dans la perpétuation du nom à travers les descendants. Et dans une sorte d'anticipation heureuse, Boaz conclut sa nuit avec Ruth par le don d'une quantité de graines, de l'orge, que Ruth emballe dans son vêtement et porte sur elle. Et certains y voient alors la silhouette d'une femme enceinte. Au petit matin, Boaz remonte de l'aire de Vanage, direction la porte de la ville. Il prend la tête des opérations pour mettre en œuvre un curieux et original scénario qui permettra de trouver une solution au problème du célibat de Ruth et de l'absence de descendance.
Pour ce faire, lisons les premiers versets du 4e et dernier chapitre du livre de Ruth, et c'est avec David Teinturier.
Boaz était monté à la porte de la ville et s'assit là. Et voici que le racheteur dont avait parlé Boaz passe. Boaz lui dit « Un tel, détourne-toi de ton chemin et assieds-toi ici. » Il se détourna de son chemin et s'assit. Boaz prit une dizaine d'hommes parmi les anciens de la ville et leur dit « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent.
Le premier chapitre mettait en scène une famille en cours de migration des champs de Moab vers ceux de Bethléem. Le second chapitre s'était enraciné dans un champ d'orge où beaucoup de monde s'affairait pour la moisson. le troisième, nous proposait de descendre sur une aire de vannage pour une scène intime au contact du monde des morts. Avec le quatrième chapitre, nous remontons pour aller nous asseoir en public à la porte de la ville.
Alors justement, pourquoi à la porte de la ville ?
La porte de la ville, c'est l'endroit de rassemblement, là où se traitent les affaires publiques, commerciales ou juridiques. C'est un peu l'équivalent de la place du village, il y a encore quelques décennies. Si cet endroit de rassemblement se trouve à la porte de la ville et non au centre, c'est qu'un des sujets capitaux qui s'y débat, c'est de savoir qui est étranger et qui ne l'est pas. Qui est autorisé à entrer dans la ville et qui devra rester dehors. C'est à la porte de la ville que se fait le tri entre le dedans et le dehors, entre le connu, le reconnu, pourrait-on dire, et l'étranger, entre le même et l'autre. Et dans notre scène, le sort de Ruth se joue à l'aune de ce critère. Ruth, la Moabite, dont le texte ne cesse de réaffirmer par cette appellation qu'elle est étrangère. Le premier chapitre était celui du déplacement pour émigrer, le second celui de la position courbée pour moissonner, le troisième celui de la position allongée pour une promesse, le quatrième sera celui de la position assise pour conclure. Dans les deux premiers versets se trouve cinq fois le verbe s'asseoir. La position assise à l'époque, c'est celle du maître, de celui qui parle à la synagogue, du sachant, du décideur. Ce dernier chapitre du livre de Ruth, c'est clair, sera celui de la décision, du jugement. Cela se fera par la volonté publique, celle des hommes, bien sûr, des anciens, mais les femmes auront le dernier mot. Voilà donc notre tribunal, désigné par Boaz, une dizaine d'hommes anciens qui prennent place, assis, à la porte de la ville. Boaz convoque également le principal concerné, le fameux racheteur, celui qui a la priorité sur lui, parce que plus proche parent de Ruth et de Naomi. On ne sait rien de lui. On a appris son existence de la bouche de Boaz à la fin du chapitre précédent. Et on ne sait tellement rien de lui qu'il n'a pas de nom. Boaz l'appelle un tel.
Alors tout est en place pour que la séance commence. Nous lisons la suite avec une surprise qui nous attend.
Boaz dit au racheteur, « La parcelle du champ de notre frère Elimelech, Naomi qui est revenue des champs de Moab la vend. J'ai dit que je t'informerais en disant, « Achète-le en présence des habitants et des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas racheter, informe-moi pour que je sache, car il n'y a personne sauf toi pour racheter. Moi, je suis après toi. » Il dit, « Moi, je veux racheter. »
Mais d'où vient donc ce champ dont parle Boaz, Marie-Pierre Courneau ?
C'est une très bonne question. Il n'a jamais été question d'un champ appartenant à Elimelech, le défunt mari de Naomi. Si Naomi avait eu un champ, elle n'aurait pas eu besoin d'envoyer Ruth, sa belle-fille, se compromettre en glanant dans le champ d'un autre. Le surgissement imprévisible de ce champ dans le récit donne du sens à cette histoire de racheteur qui court depuis le deuxième chapitre et qui semblait jusque-là n'avoir aucun lien avec notre intrigue. Ce n'est toujours pas très cohérent, le racheteur étant normalement celui qui rachète un champ qui a été préempté par un créancier. Alors l'existence réelle ou fictive de ce champ permet en tout cas à Boaz d'entrer en contact avec le fameux racheteur potentiel, qui est en l'occurrence très intéressé par ce champ, mais on s'en doute, les choses vont se compliquer. Écoutons.
Boaz dit, « Le jour où tu achèteras le champ de la main de Naomi, tu achèteras aussi Ruth, la Moabite, la femme du mort, pour établir le nom du mort sur son héritage. » Le racheteur dit, « Je ne peux pas racheter pour moi, afin de ne pas nuire à mon héritage. Rachète toi-même pour toi mon droit de rachat, parce que je ne peux pas racheter. » Autrefois, en Israël, pour confirmer toute l'affaire en cas de rachat et d'échange, l'homme retirait sa sandale et la donnait à l'autre. Ainsi, l'affaire était-elle confirmée devant témoin. Le racheteur dit à Boaz, « Achète pour toi. » Et il retira sa sandale.
Est-ce que Boaz serait le plus rusé des négociateurs et il n'aurait imaginé cette histoire de champ que pour amadouer le racheteur et le faire changer d'avis avec l'ajout d'un petit codicille « Il faut prendre Ruth en plus ». Pas de Ruth finalement, pas de champ.
Toujours est-il que le racheteur ne veut pas de Ruth. Il a peur de nuire à son héritage. S'il a un fils avec Ruth, ce fils, en vertu de la loi du Lévirat, sera réputé le fils du mari défunt de Ruth. Et c'est cet enfant qui héritera du champ d'Élimélec que le racheteur aura alors acquis sans pouvoir le transmettre à ses propres héritiers. Comme on l'a déjà vu, la loi du Lévirat est distordue puisque le nouveau mari ne serait pas le frère du défunt mais le plus proche parent. On notera une particularité du texte qui confond Naomi et Ruth. La femme d'Élimélec, le propriétaire décédé du champ, c'est Naomi. Boaz parle de Ruth comme la femme du mort, le propriétaire du champ, alors qu'elle n'est pas sa femme, mais la femme de son fils, certes également décédée. On avait déjà vu au chapitre 3 que les deux personnages féminins pouvaient parfois se confondre à la faveur d'anomalies grammaticales, sans que l'on sache très bien laquelle des deux, de Naomi ou de Ruth, descendait pour passer la nuit avec Boaz sur l'aire de vannage. Le texte fait ici un pas de plus, vers la conclusion qui verra les deux femmes se fondre en une seule.
On le comprend, notre racheteur ne veut donc pas se lancer dans le marché qu'il considère comme un marché de dupes.
Effectivement. Et notre récit fait appel à une troisième coutume décrite dans la Torah. Après la loi du Lévirat et celle du rachat, nous voilà maintenant avec l'histoire de la sandale. À l'origine, cette coutume de la sandale s'applique, comme ici, dans le contexte de la loi du Lévirat. Mais c'est la femme qui enlève sa sandale à l'homme qui refuse de l'épouser. Alors nous sommes maintenant à ce stade habitués à ce que le livre de Ruth prenne des lois et des interprètes dans un sens élargi, voire un sens contradictoire comme ici. La distorsion de la loi semble tout de même un peu hésiter à aller jusqu'au bout, puisqu'il reste une ambiguïté, en français comme en hébreu, celle de savoir qui des deux hommes, de Boaz ou de un tel l'autre racheteur, ôte sa sandale. C'est vraisemblablement Boaz, d'après le texte en hébreu. Et nous écoutons la suite.
Boaz dit aux anciens et à tout le peuple : « Vous êtes les témoins aujourd'hui que j'ai acheté de la main de Naomi tout ce qui était à Élimélec et tout ce qui était à Kilion et à Malon. J'achète aussi pour femme Ruth la Moabite, qui était à Malon, pour établir le nom du mort sur son héritage, et pour que le nom du mort ne soit pas retranché du peuple de ses frères, ni de la porte de sa localité. Vous en êtes témoins aujourd'hui. »
Le racheteur, un tel, a donc quitté le récit. Et il ne reste que Boaz, qui, officiellement, prenant les habitants à témoin, achète les biens du défunt Élimélec et de ses deux fils, également morts au début de notre histoire. On fait bien sûr l'hypothèse qu'il y a des biens à acheter, probablement ce champ sorti de nulle part. Mais surtout, comme il le lui avait promis sur l'aire de vannage, Boaz achète Ruth, la veuve de Malon. Ruth qui reste toujours, et malgré tout, la Moabite, l'étrangère. Boaz rappelle clairement l'enjeu qu'il y a à donner une descendance à Élimélec par l'intermédiaire de Ruth. C'est, dit-il, pour établir le nom du mort sur son héritage et pour que le nom du mort ne soit pas retranché du peuple de ses frères ni de la porte de sa localité. On mesure par ces mots toute l'importance que ce nom soit pour l'éternité, à la fois présent parmi les vivants et gravé dans le lieu. Si dans le chapitre précédent, la nuit sur l'aire de vannage de l'orge, avait scellé la promesse intime entre Ruth et Boaz, peut-être comme une sorte de fiançailles, engageant Dieu et les morts dans cette alliance. On est maintenant dans une autre dimension, une dimension publique. Toute la ville est témoin de ce contrat, grâce auquel Boaz officialise l'existence parmi elles du mort et de toute sa généalogie. Je ne sais pas si on peut parler de résurrection, mais on peut certainement dire qu'il s'agit d'une forme de vie après la mort.
Écoutons la réponse des habitants de la ville. Il y a beaucoup de noms propres, mais vous allez les expliciter tout de suite après Marie-Pierre Courneau.
Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent « Nous sommes témoins que Yahweh donne à la femme qui va vers ta maison d'être comme Rachel et comme Léa, qui construisirent à elles deux la maison d'Israël. Agis avec valeur en Éphrata et proclame un nom dans Bethléem. Que ta maison issue de la descendance que Yahweh te donnera de cette jeune femme soit comme celle de Pérets que Tamar enfanta pour Juda. »
Éphrata, pour des raisons historiques, c'est une autre façon d'appeler la ville de Bethléem. Comme appendice à ce contrat, Ruth, la Moabite étrangère, va être reconnue, intégrée. Et c'est tout le public rassemblé qui compare Ruth à Rachel et Léa qui ont construit à elles deux la maison d'Israël. Rachel et Léa, deux sœurs, épousent toutes les deux du patriarche Jacob, le petit-fils d'Abraham et le père des 12 tribus. Dans notre récit, elles sont clairement présentées comme des matriarches, c'est-à-dire des fondatrices du peuple de Dieu, et c'est à elles que Ruth est comparée. Les références aux fondateurs du peuple hébreu se poursuivent, avec la mention de Juda et de son fils, Pérets, qu'il a eu avec Tamar.
Alors précisément, qui sont Pérets, Tamar et Juda?
Commençons par Juda. Juda, c'est l'un des 12 fils de Jacob. Son histoire avec Tamar nous est racontée dans le livre de la Genèse, au chapitre 38. Et on va voir qu'elle a beaucoup, beaucoup de liens avec celle de Ruth. Juda a 3 fils. L'aîné épouse une femme étrangère, elle aussi, qui s'appelle Tamar, mais il meurt sans avoir eu d'enfant, lui aussi. Selon la fameuse loi du Lévirat que nous connaissons bien maintenant, le second fils de Juda épouse alors Tamar, mais il meurt, lui aussi, avant d'avoir eu un enfant. Le troisième fils de Juda devrait alors épouser Tamar. Mais Juda a peur qu'il ne meure aussi, comme si Tamar était pour quelque chose dans la mort de ses deux premiers époux. Juda préfère invoquer le jeune âge de son dernier fils et renvoyer Tamar chez son père le temps que l'enfant grandisse. Quand il a atteint l'âge de se marier, Tamar voit bien que Juda ne lui propose pas de revenir pour l'épouser. Et comme sa vocation est de donner une descendance à son époux défunt et à la lignée de Juda, elle imagine le stratagème suivant. Elle se déguise en prostituée et se place sur le chemin de son beau-père Juda. Évidemment, Juda tombe dans le piège. Il ne la reconnaît pas car elle s'est voilée le visage. En échange des faveurs reçues, Tamar demande à Juda 3 choses. Son sceau, son cordon et son bâton. Quelque temps plus tard, Juda est informé que sa belle-fille s'est prostituée et qu'elle est enceinte de ce commerce. Juda la condamne à mort, à être brûlée vive. Quand on vient la chercher, Tamar fait dire à son beau-père qu'elle est enceinte de l'homme à qui appartiennent le sceau, le cordon et le bâton. Juda les reconnaît comme étant les siens, et il fait cet aveu magnifique « Elle a été plus juste que moi ». En effet, il a essayé de trafiquer la règle en ne lui donnant pas son troisième fils, alors qu'elle, elle a mis sa propre vie en danger pour lui offrir une descendance. Quelque temps après, lors de l'accouchement, un premier enfant sort son bras et la sage-femme lui attache un ruban rouge au poignet pour reconnaître que c'est l'aîné. À cette époque, il était impératif de savoir lequel des deux jumeaux était l'aîné, car c'est l'aîné qui reçoit la bénédiction paternelle et la plus grosse partie de l'héritage. Mais l'enfant rentre alors sa main à l'intérieur du ventre maternel. Et c'est l'autre jumeau qui sort en premier. Celui-ci, on l'appelle Peretz. Ce nom veut dire « brèche » en hébreu. Il a fait une brèche pour passer coûte que coûte et permettre à sa lignée de sortir de l'impasse. Le peuple du livre de Ruth souhaite donc à Boaz que les enfants qu'il aura avec Ruth soient comme Peretz, des créateurs de brèches, grâce à qui un avenir devient possible.
Sur France Culture, Ruth, la pourvoyeuse de vie, avec la pasteur Marie-Pierre Courneau dans Sola et le carême protestant, avec le piano d'Alessandro Sgobbio et son album Aphorismi Protestanti. Nous retournons au texte et nous écoutons la suite, à partir du verset 13 de ce quatrième et dernier chapitre de Ruth.
Boaz prit Ruth, elle devint sa femme, et il alla vers elle. Yahweh lui donna une grossesse et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit Yahweh, qui n'a pas manqué de te donner un racheteur aujourd'hui, et que son nom soit proclamé en Israël. Il deviendra pour toi celui qui ramène la vie et qui soutient ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle devint sa nourrice. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi », et elles l'appelèrent Obed. C'est le père de Jessé, père de David.
Tout est bien qui finit bien, pourrait-on penser, puisque Ruth donne donc finalement un fils à Boaz, mais surtout à Élimélec, et c'était bien le but de l'histoire, non ?
Oui, c'était le but de l'histoire. Et on pourrait penser que Ruth est ainsi intégrée dans la famille, la maisonnée, qu'elle n'est plus une étrangère. D'ailleurs, elle est appelée ici simplement Ruth, et non plus Ruth la Moabite, comme ce fut si souvent le cas précédemment. Mais voilà. Une fois le fils enfanté et la mission remplie, Ruth disparaît du récit. Elle devient la grande absente. À la naissance de l'enfant succède l'absence de la mère. C'est Naomi qui est reconnue comme mère de l'enfant par les femmes qui disent « un fils est né à Naomi ». Naomi est en quelque sorte une mère d'intention de cet enfant. Et n'y avait-il pas, dès le début du livre de Ruth, l'intention que Naomi assure la filiation de son défunt mari, Élimélec ? Elle l'avait d'ailleurs imaginé dans le premier chapitre, tout en réfutant cette hypothèse du fait de son âge avancé. Mais, comble d'invraisemblance, après la naissance, Naomi prend l'enfant sur son sein et l'allait. La confusion entre Ruth et Naomi, la fusion des deux personnages, au profit de Naomi, était préparée depuis plusieurs chapitres, nous l'avions souligné. Mais ce mélange des personnages ne s'arrête pas là, puisque, curieusement, celui que les femmes appellent le racheteur, c'est l'enfant, et ce n'est pas Boaz. On voit donc qu'une indétermination des personnages se dessine progressivement tout au long du récit. Comme si l'objectif était d'arriver au dénouement, peu importe finalement qui y arrive. Chaque personnage y participe, mais n'en est pas propriétaire et ne peut pas le revendiquer pour lui-même.
Et puis il y a un autre fait inattendu, ce sont les femmes qui choisissent le nom de l'enfant. Et ça, c'est étonnant aussi.
Et oui, Parce que dans la Bible, nommer un enfant, c'est habituellement une prérogative masculine dévolue au père. On note toutefois quelques récits qui laissent cette initiative à la mère, toujours pour mettre en avant l'importance de la mère dans la construction du peuple de Dieu. C'est le cas, par exemple, pour les deux matriarches, Léa et Rachel, auxquelles Ruth a déjà été comparée. Mais ici, ce n'est pas Ruth qui choisit le nom de l'enfant, ni même Naomi, la mère d'intention. Ce sont les voisines. Cet enfant devient ainsi l'enfant de la communauté tout entière. Il est né à la communauté pour garantir la postérité du peuple. Son nom est Obed, dérivé d'une racine qui veut dire travailler ou servir, notamment servir Dieu. Dieu est intervenu tout au long du récit pour permettre ce dénouement et l'enfant le lui rend bien en portant ce nom. Plus encore, Obed sera le grand-père de David, le grand roi David. Obed inaugure la lignée davidique.
Alors écoutons maintenant les dernières phrases du livre de Ruth avec encore plus de noms, là cette fois-ci dans ces derniers versets.
Et voici les générations de Pérets. Pérets engendra Hesron, Hesron engendra Ram, et Ram engendra Aminadav. Aminadav engendra Nachon, et Nachon engendra Salma. Salma engendra Boaz, et Boaz engendra Obed. Et Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David.
Voilà que les liens entre l'histoire de Tamar, dont nous avons parlé, et celle de Ruth se précisent. En descendant de six générations dans la descendance de Pérets, le fils de Tamar, on découvre Boaz. Boaz est l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils de Pérets. Par la comparaison avec Rachel et Léa, Ruth accède au statut de matriarche. Comme elle et Tamar, elle sera ancêtre de tout un peuple, le peuple de Dieu. Ruth devient ainsi notre ancêtre et son histoire devient la nôtre. Ruth est notre sœur et nous rejoint dans notre humanité. Elle s'y dissout même puisqu'elle disparaît du récit. Son histoire interroge les manques de nos vies et nos réactions face aux pauvretés qui nous entourent. Avec Ruth se dessine la certitude que nous sommes tous construits à travers des migrations et que la pureté est une impasse qui mène à la mort. Nous pouvons faire nôtre le cheminement du récit qui ébranle les cadres sociaux, non par principe, mais pour avoir une marge de négociation qui permette d'avancer. L'objectif est une plus grande fidélité à Dieu.
Et la conclusion de cette belle histoire, eh bien nous la découvrirons donc la semaine prochaine, ici même sur France Culture, c'est dimanche à 16h. Merci encore, pasteur Marie-Pierre Courneau, et donc à dimanche. Sola et le carême protestant vous était proposé par la Fédération protestante de France en partenariat avec l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris. Je remercie Thomas Jost pour la réalisation et Nicolas de Pagaraf pour la prise de son. Cette émission est à réécouter sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Je vous rappelle évidemment que Ruth, la pourvoyeuse de vie, c'est aussi le titre d'un livre publié aux éditions Olivetan qui reprend l'ensemble des interventions de Marie-Pierre Courneau pour ce carême protestant, réécrit bien évidemment, pour être lu. Il est disponible sur le site www.éditions-olivetan.com. Et je vous laisse maintenant sur France Culture avec le carême catholique.